Bienvenue sur France Inter, bonjour à tous, nous sommes le jeudi 12 novembre. Bonjour Agnès Soubiran.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, un nouveau rebondissement dans l'enquête sur le présumé financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Après avoir affirmé avoir lui-même transporté des valises de billets, Ziad Takieddine revient sur ses déclarations et exonère l'ancien chef de l'État. Ce témoignage peut-il changer le cours de l'enquête ? Explication dès le début du journal après les autres titres, Agnès.
L'ultime appel à l'aide des petits commerçants avant l'intervention du Premier ministre ce soir à 18h. L'épidémie de Covid encore avec le casse-tête de l'organisation dans les cantines et la difficile mise en place du télétravail. En Arménie, le Premier ministre très décrié après la signature du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh peut encore compter sur la jeune génération. Et puis Netflix redécouvre en France la télé de papa.
Les invités de France Inter ce matin à 7h50, Léa.
Arrow sur les technologies. Ils seraient les grands responsables de tous les maux de notre démocratie française. Vous savez, ces hauts fonctionnaires qu'on ne connaît pas et qui auraient le vrai pouvoir. Qui sont-ils vraiment ? La politologue Chloé Morin publie une enquête sur ce qu'elle appelle les inamovibles de la République. Elle nous en parle à 7h50.
Et à 8h20, on se retrouve, Léa, pour le grand entretien de la matinale avec le chercheur en microbiologie Philippe Sansonetti, Institut Pasteur, Collège de France. Il publie « Tempête parfaite, chronique d'une pandémie annoncée ». C'est aux éditions du Seuil. Il répondra à toutes vos questions. Appelez-nous. Le standard vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. Il a plusieurs fois changé de version et opère aujourd'hui une spectaculaire volte-face. Ziad Takieddine, homme d'affaires franco-libanais, témoin clé dans l'enquête sur les soupçons de financement par le régime de Kadhafi de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, affirme désormais que, contrairement à ce qu'il a expliqué à plusieurs reprises lors de l'instruction, il n'a pas transporté personnellement 5 millions d'euros en liquide à l'Élysée. Courte déclaration faite à BFM TV et Paris Match depuis Beyrouth, où il est en fuite.
Monsieur Sarkozy n'a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle, ni Monsieur Kadhafi ne pouvait le faire parce qu'il ne le faisait jamais. Et il n'y a pas eu de financement de campagne présidentielle de Monsieur Sarkozy, jamais.
La vérité éclate enfin, a déclaré hier soir Nicolas Sarkozy. Mais il n'est pas certain, Jean-Philippe Deniau, que cette nouvelle version change le cours de l'enquête.
Si les dénégations de Ziad Takieddine viennent à point nommé pour Nicolas Sarkozy, elles servent avant tout ses propres intérêts. Condamné à 5 ans de prison en juin dernier dans le volet financier de l'affaire Karachi, Takieddine, qui s'est enfui au Liban avant le jugement du tribunal, risque une nouvelle lourde condamnation dans ce dossier du financement libyen. Certes, les juges d'instruction n'ont pas la preuve formelle de ce transfert de 5 millions d'euros dans les caisses de campagne du candidat Sarkozy, mais les aveux que Takieddine a maintes fois répétés aux magistrats depuis 2016 et jusqu'au mois de janvier dernier sont étayés par d'autres témoignages et des notes des services secrets libyens, entre autres. Poursuivi pour association de malfaiteurs, recel de détournement de fonds publics, corruption passive et financement illégal de campagne électorale, Nicolas Sarkozy demande maintenant à être démis en examen, mais il n'est pas certain que le revirement surprise de Ziad Takieddine change radicalement le cours de l'instruction.
Explication de Jean-Philippe Deniau. Justice encore avec la mise en examen d'un membre du Conseil supérieur de la magistrature pour agression sexuelle, Jean Cabanne, 65 ans, est soupçonné d'avoir agressé 4 jeunes femmes dans le métro parisien. Jean Cabanne a démissionné du CSM mais clame son innocence.
Il est 7h04, Agnès, 2 semaines après le reconfinement, les petits commerçants espère un geste du gouvernement.
L'espoir est mince, mais Emmanuel Macron avait dit lors de son intervention du 28 octobre dernier, si d'ici 15 jours nous maîtrisons mieux la situation, nous pourrons espérer ouvrir certains commerces. L'exécutif se réunit ce matin en conseil de défense avant la prise de parole du Premier ministre à 18h. Laurence Schaeffer tient un magasin de prêt-à-porter pour enfants à Saint-Chamond dans la Loire. Elle se dit prête à faire encore plus d'efforts au niveau sanitaire.
Clairement, c'est un appel qui est lancé au gouvernement. Tous les commerçants et tous les petits commerçants et les commerçants de proximité sont vraiment à même de faire respecter des règles sanitaires, qu'il n'y ait pas de contamination dans leur commerce, quoi. Tandis que là, vous allez dans les grandes surfaces, il n'y a pas de quota, il n'y a pas de limitation de personnes pour entrer. Et c'est vrai qu'on sent un petit peu lésé dans cette histoire, même si je comprends que le gouvernement ait dû faire des choix. Attention, hein, mais effectivement, on se sent lésé parce que nous, on a toujours respecté les gestes barrières, les gestes sanitaires. On a toujours nettoyé nos surfaces et on a toujours limité le nombre de clients. Et s'il faut réouvrir, et quitte à réouvrir en laissant entrer une personne à la fois, on est capable de le faire, nous, en tant que petits commerçants.
Un témoignage recueilli par Céline Autin lors d'une manifestation hier de dizaines de commerçants habillés en noir et qui se sont allongés par terre pour simuler leur mort prochaine. Les chiffres publiés hier soir restent élevés. 329 décès au cours des dernières 24 heures, 351 nouveaux malades en réanimation et près de 32 000 patients hospitalisés. Le pic atteint le 14 avril dernier était de 32 292 hospitalisations. Et puis le taux de positivité des tests est à présent de 19,5, une personne testée sur 5 se révèle positive. Alors, autre question en suspens, les lycées, où la mise en place de cours à distance n'est pas simple. Évoquez également les collèges, où les classes de 6e et 5e pourraient être privilégiées. Du côté des écoles, c'est le temps de cantine qui continue de poser problème. À Saint-Avé, dans le Morbihan, la cantine municipale accueille tous les élèves de la maternelle au CM2. Reportage signé Wafia Kenich.
Dans la queue du self, Cholène ne touche ni au couvert ni au pain. On les pose directement sur son plateau. Le garçon de 6 ans connaît les consignes.
Porter son masque et faire des distances. Et on touche pas tout. Et on lèche pas tout.
Veiller sur les tout-petits, gérer l'arrivée des CM1 et CM2. En moins de 2 heures, tout le monde doit manger. Il faut donc faire vite en respectant le fléchage au sol et le lavage des mains à l'entrée du réfectoire. Ce temps de cantine devient un vrai casse-tête. Jean-Pierre, responsable de la cuisine centrale de la ville.
On est obligé d'accepter tous les enfants dans un laps de temps qui est réduit par rapport au temps scolaire. On pourra mettre 50 personnes en plus, ça n'empêchera pas le contact des enfants.
Malgré les contraintes et le personnel mobilisé, la maire de Saint-Avé, Anne Gallo, continue à assurer ce service public.
Je pense que ce qui est le plus important, c'est avoir les informations le plus tôt possible pour que nous, les maires, on puisse s'organiser le mieux possible. Le temps de restauration, c'est aussi notre préoccupation à nous élus. Donc il faut impérativement qu'on soit associés le plus en amont possible, pas le vendredi pour le lundi.
Éviter les surprises pour gérer 400 enfants au quotidien. Sur la pause du midi, 20 élèves seulement rentrent manger à la maison. Le télétravail est impossible pour la plupart des parents.
Le télétravail, justement, les négociations entre syndicats et patronat patinent avec une réunion avant-hier qualifiée de laborieuse et une nouvelle rencontre prévue demain. Le télétravail prôné par le gouvernement, mais certaines entreprises sont encore visiblement réticentes, comme l'a raconté à Claire Chaudière ce salarié du privé.
Il y a 2 semaines, Pierre, dessinateur de plans sur outils informatiques dans le secteur du BTP, télétravailleur au printemps dernier, pose une première fois la question à sa hiérarchie.
On m'a répondu que c'était pas du tout envisagé de faire du télétravail. Mon poste en lui-même est 100% télétravaillable, sans être dégradé.
Tiraillé, voyant la ministre du Travail sur les plateaux télé, il revient à la charge la semaine dernière et obtient cette étonnante réponse. Ok pour le télétravail, sauf qu'il faudra
me présenter chaque jour à l'entreprise afin d'échanger en visuel avec les autres collaborateurs de l'entreprise.
Situation ubuesque et irresponsable, estime Pierre.
Il n'y a aucun effort de fait. Le gouvernement dit ce qui est télétravaillable doit l'être pour réduire les interactions social et clairement il y a un frein qui est mis à ça. Enfin, si tout le monde n'y met pas du sien, ça peut durer encore longtemps.
Dans la liste des secteurs les plus pointés du doigt, le milieu bancaire où un droit d'alerte a même été voté ces derniers jours, chez LCL, note Luc Mathieu de la CFDT Banque et Assurance. Résultat, des protocoles modifiés, mais à la marge.
Ça bouge, mais ça bouge très doucement. On a du mal à comprendre, on n'est pas en train de négocier un télétravail dans une phase normale. Il y a une vraie réticence des employeurs globalement sur le télétravail dans ce deuxième confinement, ça c'est une évidence.
Parmi les arguments avancés par les direction aux représentants du personnel des enjeux de sécurité informatique.
Claire Chaudière, et à lire toujours sur franceinter.fr, les départements et les régions les plus touchés par cette deuxième vague. Ajoutons que les pays riches vont débloquer plus de 500 millions d'euros pour l'achat et l'acheminement de futurs vaccins anti-Covid dans les pays en voie de développement. L'annonce sera faite officiellement aujourd'hui lors du Forum de Paris sur la paix. Le détail dans le journal de 7h30.
Il est 7h09, Agnès, l'Arménie divisée 3 jours après la signature du cessez-le-feu dans le Haut-Karabakh.
On a beaucoup entendu la colère des Arméniens qui ont saccagé le Parlement et manifesté dans les rues d'Erevan après ce qu'ils considèrent comme la trahison du Premier ministre Nikol Pachinian. Mais le chef du gouvernement arrivé au pouvoir il y a 2 ans et demi pour renouveler une classe politique corrompue et vieillissante peut encore compter sur le soutien de la génération des 20-40 ans. C'est un reportage à Erevan d'Anissa El-Jabri.
Il assume sans phare être très atteint par la défaite. 2 jours après, le jeune entrepreneur Zadik Zadikian se sent encore
choqué, blessé, mais on a une part de soulagement parce que la guerre s'est arrêtée et ça a évité de nombreux morts.
Lui parler de la révolution de velours, l'arrivée de Nikol Pachinian au pouvoir, c'est voir soudain un sourire radieux illuminer son visage.
C'est un souvenir gravé, c'est pour moi la libération entre guillemets de l'Arménie, c'est vraiment un très beau souvenir.
Pachinian, libérateur d'un pays miné par la corruption et les oligarques. C'est comme ça que le perçoit encore la jeune génération. Derrière ceux qui veulent sa démission, il voit la main de l'ancien pouvoir qui cherche sa revanche. Ovanes Sassoyan, comédien et présentateur de télévision.
Nous avons peur que les oligarques reviennent. Mais moi, en tant que citoyen d'Arménie, en tant que personne, je ne les laisserai pas reprendre le pouvoir sur le pays.
Ce mercredi, on fleurit sur les réseaux sociaux des vidéos de jeunes militaires attendant leur démobilisation. Debout dans la boue et la brume, fusil sur l'épaule, les traits tirés, il répétait « Le Premier ministre a fait ce qu'il pouvait, il a été de notre côté jusqu'au bout ». Erevan, Anissa El-Jabri, RFI pour France Inter.
Un faux pas pour l'équipe de France de foot, dominée hier soir par la Finlande au Stade de France 2-0. Un match amical a priori sans conséquences, mais pas forcément rassurant, avant un match décisif en Ligue des Nations samedi face au Portugal. Et puis changement de leader dans le Vendée Globe, c'est Charlie Dalin qui a pris la tête de la solitaire devant Alex Thompson et Kevin Escoffier. Côté Avary, Julien Bayou revient au Sable d'Olonne pour réparer son safran. Et Armel Thiripon a repris la course après une escale à la Corogne pour un problème de main.
Et 13 ans après le lancement de son service de vidéo à la demande, Agnès, Netflix met au direct.
Et c'est en France que le géant américain a choisi de se lancer dans le direct, donc la France qui compte selon Variety près de 9 millions d'abonnés. Un service donc en test depuis quelques jours auprès de certains utilisateurs hexagonaux, mais qui sera étendu à tous début décembre. La diffusion de programmes choisis par Netflix à heure fixe. Autrement dit, Alexandra Akoun, la bonne vieille télé de papa.
On pense bien sûr à la télé qui nous a tous fait découvrir des films ou des séries comme ça, par hasard, en tombant dessus. C'est ça l'idée de Netflix. Arrivé sur la plateforme, il suffira de cliquer sur « Direct » pour tomber sur un flux en temps réel, avec priorité aux créations hexagonales de Netflix, comme la série « Family Business ».
Le cannabis va être légalisé.
Et c'est ça ton idée géniale ? C'est de devenir dealer ?
Ou le film de science-fiction pour ados mortels. Seule la France, pour l'instant, aura accès à cette fonctionnalité. La France, où d'après Netflix, la consommation de télé traditionnelle est très populaire, et où, je cite, « de nombreux spectateurs aiment l'idée de programmation qui évite de choisir ce qu'ils vont regarder. Pas très flatteur. Ce qui est vrai, c'est que les Français sont de gros consommateurs de télé, près de 4 heures par jour en octobre, plus de 5 heures en avril. Reste que s'il s'agit pour Netflix d'attirer de nouveaux clients ou de fidéliser ceux qui n'en peuvent plus de passer plus de 20 minutes à sélectionner un programme, en misant sur ses productions locales, la plateforme va devoir faire un effort. Sa dernière née, La Révolution, série où les nobles sont transformés en zombies par un virus, a unanimement été saluée comme un ratage total.
Celui qui n'a pas peur de la mort dominera le monde.
Alexandra Akoun, donc pour voilà. Vous éviter de choisir, Nicolas, ouais. Netflix.
Pour avoir le ratage total en direct maintenant. Merci Agnès Souviran, pardon. Le Zoom dans 3 minutes sur le monde de la musique durement touché par la crise du Covid.